Que s'élève de nos cœurs la reconnaissance au roi. Chantez, acclamez celui qui est l'auteur de la joie. Il pardonne et remplit de paix. Lui rendre gloire est notre seul souhait. Que s'élève de nos cœurs la reconnaissance au roi. Chantez, acclamez celui qui est l'auteur de la joie. Il pardonne et remplit de paix. Lui rendre gloire est notre seul souhait. Aussi haut que soit Dieu, il voit ses enfants. Rend la vie et sauve malgré les tourments. Et nos cœurs, grands ouverts à lui, soupirent. Ô Dieu, que ta main ne cesse pas d'agir. Que s'élève de nos cœurs la reconnaissance au roi. Chantez, acclamez celui qui est l'auteur de la joie. Il pardonne et remplit de paix. Lui rendre gloire est notre seul souhait.
Je rends grâce à ton nom, mon cœur te réclame.
Je rends grâce à ton nom.
Tu réponds et fais grandir la force en mon âme.
Tous les rois
de la terre te glorifient. Bientôt chanteront l'action de ton esprit.
Que s'élève de nos cœurs la reconnaissance au roi. Chantez, acclamez celui qui est l'auteur de la joie.
Il pardonne et remplit de paix.
Lui rendre gloire est notre seul souhait.
Éternel est ton grand nom, tes promesses dureront. C'est en toi que je veux vivre.
Oui, c'est toi que je veux suivre. Après toi que je soupire, ce que tu dis s'accomplit par ton action. Je rends grâce à ton nom, mon cœur te réclame.
Je rends grâce à ton nom.
Tu réponds et fais grandir la force en mon âme. Et nos cœurs, grands ouverts à lui, soupirent. Ô Dieu, que ta main ne cesse pas d'agir. Chantez, acclamez celui qui est l'auteur de la joie. Il pardonne et remplit de paix. Lui rendre gloire est notre seul souhait.
Avec nous.
Que s'élève de nos cœurs la reconnaissance au roi. Chantez, acclamez celui qui est l'auteur de la joie. Il pardonne et remplit de paix. Lui rendre gloire est notre seul souhait. Que s'élève de nos cœurs la reconnaissance au roi. Chantez, acclamez celui qui est l'auteur de la joie.
Il pardonne.
Merci bien au groupe Lucéa. Oui, bienvenue à chacun. Nous avons chanté, loué, acclamé celui...
qui est l'auteur de la joie.
Voilà, qui donne à nous la joie, l'auteur de notre prêt. Il pardonne. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous unit ce matin. C'est ce Dieu qui nous pardonne, qui nous unit, qui est l'auteur de notre joie. C'est marqué loué et acclamé. Moi, j'aurais envie de rajouter et proclamez et transmettez. Et ça sera un petit peu le thème du message de ce matin avec notre ami Philippe Anchaud. Pas Philippe, Benjamin Anchaud. On n'échange pas un anchaud contre un anchaud, c'est un échange de chair et c'est Célina qui aujourd'hui est à l'église de l'Espérance. Nous pensons à elle, nous pensons à cette église, nous les bénissons aussi au nom de Jésus-Christ. Alors merci Benjamin, pour toi et ta famille qui est avec toi, soyez les bienvenus. Et merci pour ce que tu vas partager avec nous ce matin. Bienvenue également bien sûr au groupe Lucia. Magnifique groupe Lucia. Qui va pour notre plaisir, mais pas seulement. C'est surtout aussi pour le plaisir de celui qui nous unit aujourd'hui et qu'elles vont chanter et nous conduire dans la louange. Alors, merci d'être là. Alors, Lucia, bien juste, hein, Lucia, c'est un nom de famille.
Non, c'est un nom de groupe, mais en fait...
Un nom de groupe, c'est ce que je voulais dire.
Oui. Ouais.
Mais un groupe, c'est des personnes. Et je demanderai à ces dames qui sont avec nous ce matin si elles peuvent nous donner leur prénom de manière qu'on puisse un tout petit peu les connaître un peu mieux.
Merci. Bonjour, je m'appelle Laura.
Moi, je suis Ève.
Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu Ève. Moi, c'est Valentine.
Moi, c'est Florine.
Je m'appelle Paola.
Moi, je suis Alexia.
Et je m'appelle Joy.
Et puis, bien sûr, qu'il y a aussi quelques mecs avec. Ils sont les trois derrière. Ils vont peut-être nous donner aussi leur prénom.
Sylvain.
Ah, c'est Pablo.
Et c'est Théo.
Voilà. Peut-être que, vous voyez, Lucia, c'est quand même, j'ai compté 3, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Et ces personnes, elles sont là, elles sont un peu les pierres vivantes, comme dans l'église. Et elles sont là pour nous réjouir ce matin et réjouir par leur chant et louer avec nous notre Seigneur et Sauveur. Alors voilà, prions pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous unis ce matin autour de ton nom, autour de tout ce que tu as fait pour nous, parce que nous sommes frères et sœurs, ensemble, unis, fils et filles de Dieu, fils et filles du roi. Et merci parce que ce matin, nous voulons t'offrir ce culte, nous voulons t'offrir notre louange, t'offrir notre écoute aussi dans ce que tu veux nous transmettre. Tu bénis l'équipe, le culte à l'Espérance et Célina qui prêche là-bas ce matin, tu les gardes et tu les réjouis aussi en ton nom. Alors, nous nous remettons entre tes mains et donne-nous de savoir, oui, te parler, te dire, mais aussi écouter et vivre cette semaine avec toi et ce culte ce matin. Amen. Alors, je leur passe tout de suite la parole pour un temps de louange que nous partageons ce matin.
Merci. Bah, on vous invite à vous lever pour partager ce moment de louange ensemble. Et voilà, le but, c'est vraiment d'élever notre Seigneur. Donc, sentez-vous libre de prier, de chanter comme vous voulez. C'est parti.
J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, dans la chaleur de tes bras, il guérit, restaure, rend vivant les morts, mon plus grand trésor. C'est l'amour de notre Père, au feu qui dévore. Baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté. Par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts.
grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père.
Notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père.
Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. Peuple dans la vérité, brille comme le soleil. je te chante pour ce que tu as fait.
Pour nous. Et on veut te redire ce matin comme on est reconnaissant de pouvoir être proche de ton cœur, et on veut te demander encore plus de toi, plus de ta présence, plus de ton Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons soif de ta présence, Jésus. Embrase nos cœurs.
coule sur nos vies. Purifie nos cœurs, ô Seigneur. Aide-nous à toujours plus te ressembler. Oh, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Qu'au travers de nous, tu puisses agir pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays.
Que tu nous as fait comme cadeau en mourant à la croix. Merci parce que ce Saint-Esprit nous dirige. Merci parce qu'on peut se confier en lui. Seigneur, tu as un confident, tu as un ami, tu as un rocher, mon Dieu. Seigneur, merci pour cet esprit que tu nous as laissé. Et par cet esprit, on veut se laisser conduire, on veut se laisser guider, Seigneur, pas après pas, avec toi, Jésus. Alléluia. Amen.
Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés et nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont.
sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous prierons. Avec ton esprit, nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble, nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble, nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Nous allons prier, prier, et nous allons prier, prier, et nous allons prier, prier, et nous allons dans le monde, prier, prier, comme une ville sur la colline, prier, prier, comme des flambeaux dans le monde, prier, prier, comme une ville sur la colline, prier, prier, comme des flambeaux dans le monde. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini.
Merci beaucoup à Lucia. Nous allons prier pour les enfants qui vont rejoindre leur groupe et leur moniteur. Oui, Seigneur Jésus, dans ce culte de ce dimanche, nous voulons te présenter spécialement nos enfants. Tu les bénis, tu les gardes, afin qu'ils soient à leur tour un jour brillants dans les nations, qu'ils puissent briller à l'infini comme les étoiles dans la nuit. Et tu bénis leur moniteur, Seigneur, qu'ils essayent de transmettre cette grâce et cette paix et cette joie que tu nous donnes. Nous les bénissons en ton nom. Amen. Voilà, les enfants, vous pouvez y aller. Merci au groupe Lucia, que nous aurons le plaisir d'entendre encore. Oui, je m'excuse, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur, lui, vous connaît. Il sait votre nom et vos prénoms. Voilà. Alors oui, merci à Benjamin qui va nous introduire ce matin, nous partager quelque chose. Et il m'a demandé de lire un ou deux textes, ce que je vais faire maintenant. Le premier, dans Deutéronome, au chapitre 6, versets 4 à 6, puis après au chapitre 6 toujours, mais versets 20 à 21. Ah. Voilà, ça va comme ça ? Vous m'entendez ? Je suis un peu pris. Hein. J'ai eu un... ces 10 derniers jours, j'étais là très pris. Dimanche dernier, j'aurais peut-être pas pu faire ce que je fais ce matin. Voilà. Alors, 6. Donc, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël. Ouais, pour écouter, il faut avoir un bon micro quand même. Pas pour écouter, mais... Ah, voilà, ouais, d'accord. Écoute Israël, écoute Église de Mérin. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et un peu plus loin, au verset 20 du même chapitre, lorsque demain ton fils te demandera « Que signifient ces déclarations, ces prescriptions et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandées ?» Tu diras à ton fils « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. » Un autre texte, dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il le dit aussi pasteur et docteur dans d'autres traductions. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. J'invite Benjamin à me rejoindre. Prier pour toi. Seigneur Jésus, merci parce que dans cette liberté des enfants de Dieu, tu nous permets d'entendre ce matin Benjamin et surtout ce que tu as à nous dire au travers de lui. Nous le bénissons en ton nom, croyant qu'il a quelque chose à nous transmettre de ta part. Merci pour tes paroles qui sont vie, puissance et qui jour après jour, aujourd'hui encore, nous permettent d'être solidement fondés sur toi. Alors, nous bénissons Benjamin et que tu lui donnes toute la liberté de nous dire ce qu'il a à nous dire. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Amen. Merci. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Donc voilà, je m'appelle Benjamin Anchaud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je connais quand même quelques visages parce que j'ai fait un stage ici il y a déjà quelques années en arrière. Je suis pasteur à l'église L'Espérance au Grand Nancy où est Célina ce matin. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Voilà, vous savez tout de moi. Ce matin, j'avais envie qu'on puisse parler ensemble de l'église, des enfants et plus particulièrement de la transmission et de la transmission de la foi. Parce que c'est une question quand même, je crois, que beaucoup de monde se pose. Comment on va pouvoir transmettre la foi aux futures générations? Aujourd'hui, les jeunes grandissent dans un contexte qui est particulièrement difficile quand on veut vivre sa foi. Quand moi j'étais jeune, peut-être quand vous étiez jeune, la principale question sur laquelle on était confronté dans notre foi en tant qu'enfant à l'école, il me semble que c'était la question de la science et de la foi. Aujourd'hui, cette question est toujours présente, quoique grâce au relativisme ambiant, peut-être un petit peu moins forte qu'avant, mais il y a toutes les questions éthiques qui sont là et qui sont vraiment fortes et qui créent un contexte quand même pas facile dans lequel nos enfants, nos jeunes vont grandir. Et puis, quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, je crois que la grande majorité de mes camarades ont fait le catéchisme dans l'église réformée, un ou deux à l'église catholique. Aujourd'hui, je pense pas que la majorité des élèves d'une classe suivent le catéchisme. Alors là, je fais que de personnaliser hein, de la statistique. Dans les années 70, il y avait 97,5% de personnes qui se disaient chrétiennes dans notre pays. Aujourd'hui, en 2021, on est à 59%. Puis quand on parle de chrétien, c'est simplement parce qu'on a coché une case quelque part ou peut-être qu'on s'est fait baptiser quand on était bébé dans l'église catholique. Mais ça ne représente pas une conviction. Donc on voit hein, 40% de moins en quoi 50 ans. On peut dire que le christianisme est en chute libre, à peu près. Donc forcément, ça ne rend pas un contexte plus facile pour les enfants et les jeunes aujourd'hui, pour nous, dans notre société. Et on peut se poser la question, mais est-ce que c'est possible de transmettre la foi à nos enfants pour qu'ils restent fermement enracinés dans leur foi malgré un environnement difficile? Ça, c'est la première question sur laquelle on va s'arrêter. La deuxième question qu'on va aborder ce matin, c'est finalement quels sont les bases bibliques, quels sont les textes qui nous poussent à transmettre notre foi. Quelles sont les raisons pour lesquelles on a envie de transmettre notre foi? Et dans une dernière partie, on ira dans le concret, comment est-ce qu'on peut transmettre notre foi, quelques bases de la transmission, et puis quelques raisons toutes concrètes pour aujourd'hui se dire, mais on veut transmettre notre foi. Alors la Bible parle de plein d'enfants qui sont célèbres. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? J'entends rien du tout, il faut parler plus fort. Ne vous gênez pas. Samuel. Jésus, effectivement. Moïse. David. Josias. Oui, ça en fait déjà quelques-uns. On peut penser encore à Samson, à Pérez, la petite servante de Naaman. Josias, il y a aussi d'autres rois hein, qui étaient en fait enfants. Jean-Baptiste, Paul, on sait aussi certaines choses de son enfance. Et ce matin, on va s'arrêter essentiellement sur deux personnes, à savoir Moïse et Daniel. Alors Moïse, il est né dans une époque troublée. Sa famille était une famille d'esclaves. Lui-même était esclave. D'ailleurs, les amis de ses parents étaient esclaves. Ses grands-parents étaient esclaves. Ses oncles, ses tantes, ses cousins étaient esclaves. Il est né dans un peuple d'esclaves. Ses maîtres, leurs maîtres, avaient tout pouvoir sur eux. Pouvoir de vie et de mort. Et justement, le pharaon, qui était le roi des Égyptiens, décide que Moïse doit être mis à mort. Il ordonne qu'il soit mis à mort. Mais sa maman, quand elle voit Moïse, elle se dit « Mais il est tellement beau ce bébé. Je ne peux pas me résoudre à ça. » Alors elle le cache pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'elle se dise « Mais c'est impossible, je ne peux plus le cacher. » Alors elle fabrique une embarcation de fortune, elle dépose son bébé dedans et elle va mettre son petit navire, son radeau, sur le Nil. Myriam, la grande sœur de Moïse, se cache et regarde ce qui se passe. La fille de Pharaon se rend au bord du Nil. Elle voit le petit bébé et elle est saisie de compassion. Elle a de l'amour pour cet enfant. Puis elle se dit, mais on ne peut pas le laisser mourir cet enfant. Je vais l'adopter. Alors quand Myriam, elle voit ça, moi j'imagine, elle a dû rayonner, elle a dû sourire, elle s'est dit, ah mon petit frère, il ne va pas mourir. Alors elle sort de sa cachette, puis elle va vers la princesse, puis elle dit, est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher une nourrice? Puis la fille du pharaon, elle se dit, mais oui, ça c'est une bonne idée, comme ça on en prend soin, quand il sera grand, eh bien il viendra me rejoindre. Et c'est ainsi que Moïse se retrouve chez sa maman pendant sa petite enfance, jusqu'au sevrage, avant d'être conduit à la cour du Pharaon, où on peut imaginer qu'il sera instruit par les meilleurs maîtres de l'Égypte. Pendant quelques années, Moïse va grandir dans un contexte de foi. La mère de Moïse va avoir quelques années privilégiées pour lui donner des bases pour ne pas devenir comme les Égyptiens qui sont en train d'opprimer son peuple. Moïse va vivre dans ce cocon, va partir dans la cour du Pharaon pour être enseigné, j'imagine, par les plus grands maîtres de l'époque, pour subir un lavage de cerveau, comme je suis sûr on savait très bien le faire à l'époque. Une fois devenu adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la rue, il voit un Hébreu être maltraité, il prend sa défense, il tue l'Égyptien. Il a tenu ferme face à l'enseignement qu'il avait reçu pour servir Dieu. Alors, on peut discuter sur la manière dont il va prendre la défense du peuple. Vous connaissez peut-être la suite de l'histoire, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire. La référence, c'est Exode, puis vous pouvez continuer la lecture, c'est passionnant. Mais Moïse a pu rester ferme dans sa foi et il va devenir un grand homme de Dieu. Et quand j'entends cette histoire, je me dis, mais nos enfants, il faut s'en occuper. On a la possibilité de leur transmettre quelque chose pour qu'ils soient suffisamment forts dans leur identité pour rester fermes et choisir Dieu. Alors, il ne s'agit pas de les endoctriner, hein, on va y revenir plus tard, il ne s'agit pas d'en faire des bons petits chrétiens évangéliques qui savent réciter leurs leçons, mais il s'agit de les aider à aimer Christ, à choisir résolument Jésus. Il y a un autre enfant dont l'enfance ressemble un petit peu à celle de Moïse. C'est Samuel, parce que aussi lui, quand il était petit, quelques années privilégiées dans sa famille avant qu'il soit placé dans un contexte hostile. La différence que le contexte hostile, ce n'est pas une société extérieure, c'est un système religieux corrompu. Et dans ce système religieux corrompu, eh bien, Samuel restera ferme et choisira de suivre Jésus, choisira de suivre Dieu. J'ai lu un jour les paroles d'un grand sage qui disait ceci, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et ces deux exemples sont hyper encourageants. Ça donne l'assurance que, oui, on peut s'occuper de nos enfants pour qu'ils restent fermes, pour qu'ils marchent avec Dieu. Mais il s'agit de cas où ce sont les parents, essentiellement, qui ont eu ce rôle-là. Et puis, je trouve intéressant de voir un autre cas où la société en fait, a donné un cadre qui a permis à quelqu'un de suivre Dieu. Daniel. Prenons le cas de Daniel. Daniel, c'est un jeune homme de bonne famille. Et puis, il vit, lui aussi, à une époque troublée. Finalement, les époques troublées, il y en a quand même bien souvent, il me semble. La vie, c'est rarement un long fleuve tranquille. Daniel, il vit au moment où Babylone va arriver dans son pays et en Israël, et va déporter Israël. Et puis le roi de Babylone, Nabuchodonosor, il décide de prendre la crème pour devenir fonctionnaire dans son pays. Donc il envoie le sélectionneur de son équipe nationale, et Daniel se fait sélectionner. Il se fait sélectionner pour être pendant 3 ans à la cour du roi, subir un lavage de cerveau et apprendre comment se comporter comme un bon petit babylonien. Mais Daniel, il aime Dieu. Il aime résolument Dieu. Et malgré cette éducation, il va choisir de suivre Dieu. Il va rester fermement attaché à lui. Il va prendre des décisions qui iront à l'encontre de l'instruction qu'il a reçue de la part de Babylone, qui iront même jusqu'à lui poser de sérieux problèmes. Il risquera sa vie parce qu'il a choisi de suivre Dieu. Alors vous allez dire, mais Daniel, finalement, c'est un jeune homme quand il arrive à Babylone. On pourrait lire le premier verset du livre de Daniel. Le livre de Daniel commence ainsi. La 3e année du règne de Joachim sur Juda. Vous savez qui c'est Joachim ? Bien sûr. C'est un roi d'Israël qui régnait à cette époque-là et qui n'a pas été un bon roi. Et au bout de 3 ans, Dieu, il dit, c'en être, comme je l'avais déjà dit avant, maintenant, on va mettre les compteurs à zéro. Mais Joachim, c'est le fils de Josias. Josias, il y a quelqu'un qui l'a mentionné avant. Josias, contrairement à son père et à son grand-père, Josias a été un bon roi. Il était roi à 8 ans et il a décidé de marcher avec Dieu. Il a entrepris des réformes dans tout le pays pour que Israël suive Dieu. Et en fait, si on pense à Daniel, eh bien, il a grandi dans ce contexte de réforme. La Bible ne nous dit pas quel effet ça a produit sur lui, mais j'imagine que quand il était à Babylone, il s'est rappelé de ce que Josias avait fait et de l'importance de s'attacher à Dieu. Alors, je ne suis ni Josias, ni Moïse, tu es ni Samuel, ni Daniel, mais est-ce que tu es prêt à contribuer à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour Dieu? Le contexte n'est pas propice, il y a peu de chrétiens en Occident, mais est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que comme, j'imagine, la mère de Moïse, la mère de Samuel, tu penses que si tu confies tes enfants à Dieu, Dieu va pouvoir les garder. Que si tu prends soin d'enfants qui ne sont pas les tiens, mais Dieu va aussi pouvoir les garder dans cet environnement hostile. C'est pourquoi, ce matin, j'aimerais vous inviter à ce que, en tant qu'Église, on puisse avoir un soin particulier pour les enfants et les jeunes qui sont au milieu de nous. Un grand sage, toujours, a dit « Les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Lorsqu'on prend soin des enfants, on est fier de voir comme ils grandissent, parce qu'on peut leur transmettre quelque chose. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ces enfants, eh ben, sont fiers de qui sont leurs aînés et les regardent avec beaucoup de respect et d'admiration. Ils sont un témoignage, en quelque sorte, que leurs aînés sont des fils et des filles du Très-Haut. Alors ces quelques exemples que nous avons vus nous encouragent à prendre soin de la génération qui suit. Et la transmission est une tâche qui est noble. Quand je réfléchis à cette question, je réalise que ce n'est pas juste le souci des chrétiens de transmettre, mais c'est quelque chose qui fait partie du cœur de l'homme, de pouvoir transmettre à son prochain, transmettre à la génération qui suit. On peut penser à des personnes qui ont une morale finalement assez éloignée des valeurs chrétiennes et qui pourtant décident de transmettre à quelqu'un d'autre de manière tout à fait gratuite, simplement parce qu'ils ont envie que ce qu'ils ont accumulé puisse être transmis à quelqu'un. Et en fait, quand on pense à comment Dieu a créé le monde, ce n'est pas si surprenant. Parce que Dieu, il a créer l'homme et la femme à son image sur la terre. Autrement dit, Dieu a placé l'homme et la femme comme ses représentants sur terre pour qu'ils puissent transmettre qui est le Très-Haut. Et donc cette envie de transmettre est profondément ancrée dans la nature humaine. Alors bon, vous savez, vous connaissez la suite de l'histoire, j'imagine. Hein, les hommes ont transmis de manière très imparfaite qui est Dieu. En fait, ils ont rompu le lien qui les liait à Dieu. Et puis, la transmission est devenue beaucoup plus compliquée que ce qu'elle aurait dû être. Et finalement, les hommes ont été de pâles représentants de qui est Dieu. C'est un peu comme si la courroie de transmission avait été rompue, que cette connaissance de Dieu n'était pas si naturelle que ça, était même comme complètement étrangère, parce que l'image avait été brisée. Oh, pas totalement anéantie, mais tellement corrompue qu'on ne pouvait plus reconnaître le Créateur. Et Dieu a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est qu'il n'a pas voulu en rester là. Il n'a pas voulu en rester là et il a envoyé Jésus. Il a envoyé son Fils pour être l'image du Dieu invisible. Il y a un verset dans Colossiens qui dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible. » Là où l'homme a raté, manqué, échoué d'être l'image de Dieu, eh bien Dieu a envoyé son Fils pour être son représentant sur terre. Et quand Jésus décrit sa mission, il dit en Jean 5, verset 19, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Si on réfléchit en termes de transmission, c'est quand même assez incroyable. Tout ce que le Père fait, le Fils va faire. Ah, ça, c'est le rêve du formateur. Vous imaginez? Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que c'est mon rêve en tant que papa? Il y a quand même certaines choses, j'espère que mon fils ne va pas faire comme moi. Mais c'est intéressant, c'est que ce principe de transmission, on le retrouve lors de la création, on le voit aussi, le fils qui va accomplir ce qu'il voit faire le père et qui va transmettre cette mission à son église. Et quand je parle de l'église, hein, ce n'est pas les responsables, ce n'est pas une institution, ce n'est pas les moniteurs de l'école du dimanche. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. On a reçu cette mission de transmettre l'amour de Dieu, de transmettre ce que nous avons vu faire, ce que nous savons que Jésus a fait, qu'on puisse le transmettre. Et franchement, je m'en sens bien incapable. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'une connaissance technique que nous pourrions transmettre. Mais quand on parle de la foi, j'ai l'impression que les gens sont aveugles, ils ont les yeux fermés, ils ont les oreilles bouchées, ils ne voient rien. Et on a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin que Dieu il accomplisse son œuvre. On a besoin que Dieu il vienne ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, effacer le péché qui nous sépare de lui. Et c'est précisément ce qu'il est venu faire. Jésus, il n'est pas venu simplement pour dire, mais hey, vous avez vu, moi je suis le Fils de Dieu, et vous, vous avez raté votre vie. Non, il est venu précisément pour enlever ce qui nous empêchait de connaître Dieu, ce qui nous faisait rater notre vie. Il est venu pour nous transformer, nous personnellement, mais aussi ceux qui sont à côté de nous, pour enlever ce qui leur empêche de voir. Jésus, lui qui était parfait, il est mort comme le plus misérable, sur la croix, pour prendre nos péchés, pour nous ouvrir les yeux. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, cette rencontre avec le Christ tellement puissante qu'on en est transformé. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend et qu'il y a quelque chose qui se passe au plus profond d'entre nous. Vous avez déjà vécu ça? Si vous ne l'avez pas encore vécu, ce n'est pas trop tard. C'est possible aujourd'hui de le vivre. Et il y a un truc absolument incroyable qui se passe, c'est qu'on est transformé. D'une manière, moi, je ne saurais pas comment le décrire, mais la Bible, elle met un mot dessus. La nouvelle naissance. Elle parle d'une nouvelle naissance. On l'a lu en Éphésiens. Quand on est dans la foi, on est comme des bébés et on doit grandir. On doit grandir pour devenir semblable à Christ. Et ça, ça me rassure. Parce que, en fait, quand je vais transmettre la foi aux autres, ils ne vont pas devoir me ressembler. Enfin, un petit peu quand même, dans la mesure où je reflète Dieu. Mais ils vont devoir ressembler à Christ. Et ça, ça me rassure parce que je me dis, mais ils n'ont pas besoin de prendre tous mes défauts. Heureusement. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Nouveau Testament, mais à un moment donné, Jean, dans ses épîtres, quand il va écrire à des gens qui aiment Dieu, il va les appeler mes petits-enfants. Quand Paul va écrire à Timothée, une des personnes qui l'a suivi, il va s'adresser à lui en lui disant mon enfant. Mais il n'y a aucun lien de sang entre Paul et Timothée. Il n'y a aucun lien de sang entre Jean et ses lecteurs. Pourtant, il y a quelque chose qui ressemble à la filiation. Quelque chose de tellement fort que Paul va appeler Timothée mon enfant, que Jean va appeler ses lecteurs mes petits-enfants. La Bible ne diminue jamais le rôle du père et de la mère naturelle. Honore ton père et ta mère, un des 10 commandements. Mais elle va permettre à l'Église de vivre des relations différentes, des relations tellement fortes qu'on va pouvoir se considérer un petit peu comme des pères, des mères, des enfants, des fils. La transmission, ce n'est pas juste dans la famille, c'est aussi dans l'Église. En tant que parent, on a besoin d'être entouré. En tant qu'enfant, on a besoin d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus larges que nos parents. Et on va vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est que il y aura un héritage qui sera transmis. Les générations qui suivent, si vous prenez soin d'elles, vont vous regarder avec fierté, avec reconnaissance, comme de bons pères, comme de bonnes mères. Et vous, vous allez les regarder avec fierté, comme des fils, comme des filles. Ça fait envie, n'est-ce pas? Ça fait envie. Et on en a particulièrement besoin aujourd'hui. La question qui se pose, mais c'est comment on fait pour vivre ce beau projet de Dieu? La Bible ne nous donne pas de recette toute faite sur comment transmettre la foi aux enfants. Il y a une grande liberté, mais il y a des jalons qui sont posés. Je crois que le premier jalon, c'est on enseigne la Bible, toute la Bible. Et on garde nos spécificités pour discussion entre adultes. Quand je parle de spécificité, c'est je sais pas, l'importance de la prière d'écoute, l'importance d'Israël, l'importance de, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, de lire la Bible en grec et en hébreu. Ah, tout ça, c'est des trucs hyper importants. D'ailleurs, vous souriez, hein, parce qu'on ne met pas la même importance suivant les sujets, hein, suivant les personnes qu'on est. Mais c'est des sujets secondaires. Parce que notre but, enfin, franchement, notre but, ce n'est pas que nos enfants ils se mettent à prier en langue. Notre but, c'est qu'ils suivent Jésus-Christ. Puis, les discussions sur Israël, ne nous inquiétons pas. Ils auront le temps de les avoir quand ils seront grands. Mais attendons qu'ils soient grands. Notre rôle, c'est de pouvoir enseigner Christ à travers toutes les Écritures, de sorte que quand ils verront Christ, ils sachent dire « mais oui, lui c'est le Messie, c'est lui que nous voulons suivre ». Puis les autres discussions, ils les auront, hein, et ne vous inquiétez pas, vos enfants feront des choix différents de vous. Et oui, mais s'ils suivent Jésus, je suis content, moi c'est bon. Ils peuvent faire des choix différents sur les questions secondaires. Et puis c'est important de laisser ces questions secondaires de côté parce que si on ne le fait pas et qu'on en fait des points centraux dans nos enseignements, je ne suis pas sûr que les parents seront d'accord de nous confier leurs enfants. Un deuxième élément qui me semble absolument central, c'est de développer leur esprit critique pour qu'ils ne se laissent pas entraîner dans toutes sortes de combines, dans l'épître aux Éphésiens, il est dit, mais puis là j'ai le texte de Deutéronome. Dans l'épître d'Éphésiens, ainsi nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. On doit grandir pour devenir des adultes. C'est valable des enfants qui passent au sein d'adultes, c'est valable quand on est jeune chrétien, devenir mature dans la foi, et ça on n'a jamais fini. Hein. On a beau avoir des dizaines d'années de foi, on est toujours en train de grandir. Mais il faut développer l'esprit critique pour pas qu'on soit ballotté à droite à gauche en fonction des théories et des modes. Et pour ça, développons l'esprit critique. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est incroyable le nombre de passages dans l'Ancien Testament, le nombre de choses qui sont données pour qu'on puisse transmettre la foi à nos enfants. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et j'ai été frappé, tu les écriras sur le poteau de ta maison. Vous imaginez ce que ça veut dire à l'époque où ce commandement a été donné? Ça veut dire que tes enfants, tu leur apprends à lire, tu leur apprends à écrire. Une évidence aujourd'hui, ce n'était pas une évidence à l'époque, en tout cas pas pendant toute la période d'Israël. La transmission de la foi passe par le développement de compétences qui vont bien au-delà de la foi. Lire, écrire, et on peut penser, on peut ajouter toutes les connaissances, grandir dans nos connaissances. Nous devons développer l'esprit critique de nos enfants. Des fois, je rencontre certains chrétiens qui ont un petit peu peur parce qu'ils se disent, mais est-ce que finalement, après, ils vont choisir Jésus ? Mais moi, je crois que oui. Jésus, c'est la vérité. S'ils développent leur esprit critique, ils auront plus de facilité à reconnaître la vérité. Mais bien sûr, il y a aussi le risque qu'ils fassent un autre choix. On peut faire tout bien en tant que parent, en tant qu'église, et les enfants font un autre choix. C'est leur choix, au final, et on ne peut pas les forcer. Donc, deux choses essentielles dans la transmission de la foi. Enseigner l'écriture, toute l'écriture. Développer l'esprit critique de nos enfants, de nos jeunes. Alors, pourquoi s'occuper des enfants en tant qu'église ? Nous connaissons tous des églises qui sont désertées par les enfants et par les jeunes. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans des églises qui avons les forces et les ressources pour nous occuper des enfants et des jeunes. Priorité numéro un, occupons des jeunes et des enfants qui sont parmi nous. Ça, c'est notre priorité numéro un. Vous imaginez si tous les enfants qui étaient passés par Mérin étaient à Mérin aujourd'hui ? Moi, je pense que ces locaux étaient trop petits. Je ne connais pas bien l'église, hein, mais j'imagine que ces locaux seraient trop petits. En tout cas, à l'espérance, les locaux seraient trop petits. Si les enfants se sentent bien à l'église, les parents se sentiront bien à l'église. Et ils vont s'impliquer parce qu'ils auront envie que leurs enfants soient bien dans l'église. Donc, quand on rejoint les enfants, on rejoint les parents aussi. Et puis, les enfants, c'est assez extraordinaire parce qu'eux, ils n'ont aucun problème de parler de leur foi à l'école. Nous, on est un petit peu gênés sur notre lieu de travail, on ne sait pas trop comment faire. Eux, quand ils vivent quelque chose de chouette à l'église, ben, ils invitent leurs copains. Donc, ce sera l'occasion de parler de la foi, de faire de l'évangélisation. Parce que quand les enfants ils vont venir, vous croyez qu'ils vont venir tout seuls ? Non, c'est les parents qui vont les amener. Ah, on boit un café, qu'est-ce que tu en penses ? Ah, tu crois en... Non, tu n'as jamais entendu parler de Dieu. Tu as eu des parents protestants. Tu viens d'une autre religion. La discussion, elle est ouverte. On peut aller plus loin. Est-ce que ça marche ? Je vais vous dire un truc. Il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne pourra pas le savoir. Par contre, ce que je sais, c'est que la toute grande majorité des missions, des missionnaires qui sont allés à l'étranger, dans des contextes où il n'y avait pas de foi, ils se sont occupés des enfants. Et c'est comme ça que l'évangile a commencé à être propagé. Les enfants, la santé. Mais aujourd'hui, on est à quoi ? 2% d'évangéliques en Suisse, quelque chose comme ça ? 5,6% d'autres mouvements chrétiens en dehors du catholicisme et du protestantisme, dont 2,6% d'orthodoxes, quelque chose comme ça. Ouais. Pas beaucoup, quoi. Pas grand-chose. On est dans un contexte qui n'est pas chrétien. Pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas les méthodes qui ont fait leur preuve ailleurs ? Une méthode qui, en plus, est tellement biblique, transmettre la foi à nos enfants. Et puis, pour conclure, j'aimerais lire quelques paroles de Jésus en Matthieu 18, versets 3 à 5. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Or, on pourrait faire 15 000 théories sur ce que ça veut dire de devenir humble comme un enfant. Mais vous savez comment c'est le meilleur moyen de comprendre ce verset ? C'est de passer du temps avec les enfants. Et là, ce verset viendra en trois dimensions. Je vous propose qu'on puisse prier et qu'on puisse vraiment demander à Dieu que les enfants, les jeunes, ils soient enthousiasmés par ce que nous vivons et qu'ils soient transformés par le Saint-Esprit. Seigneur, on vient devant toi parce qu'on a besoin de toi. On a besoin que tu enlèves la glu qui est devant nos yeux. On a besoin que tu enlèves les boules caisses qu'on s'est mis dans nos oreilles pour qu'on entende ta voix. On a besoin que tu envoies ton esprit pour qu'on soit transformé. Pas mon voisin, mais j'ai besoin que ça commence par moi. Et Seigneur, si tu peux le faire avec moi, je crois que tu peux le faire avec mon voisin. Alors, envoie ton esprit pour préparer les cœurs. et donne-nous cette passion pour parler de toi, pour transmettre notre foi. Aide-nous à entourer les enfants dans l'Église, les enfants que tu nous as confiés, pour qu'ils deviennent des adultes matures, prêts à se lever pour toi et à te servir. Seigneur, on a besoin que tu nous aides dans cette transmission, parce que si tu n'es pas à l'heure avec nous, nous n'y arriverons pas. Seigneur, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, que ton nom soit glorifié. Amen.
Merci Benjamin pour cette exhortation à enseigner, transmettre. Et je vous propose quelques minutes de prière libre où chacun peut s'exprimer et répondre à ce qu'il a entendu ce matin.
Demandant à ton esprit d'agir dans leur vie, Seigneur Jésus. Amen.
En cette personne de Jésus, dans cette relation de Jésus, Seigneur, tu donnes une porte de liberté pour les enfants, Seigneur. Liberté d'eux-mêmes, liberté de tous les remords, tout ce qui pourrait être négatif pour eux, Seigneur. Ils ont une porte, Seigneur, pour pouvoir le déposer à ta croix. Seigneur, nous voulons vraiment pouvoir témoigner, Seigneur, c'est aussi l'Église de demain, mais nous voulons vraiment que les enfants qui aient la liberté grâce à Jésus. Alors, Seigneur Jésus, bénis les enfants. Seigneur, j'aimerais aussi te remettre les enfants de la Framboise, Seigneur, qui sont ici, qui sont dans ces locaux, Seigneur, que nous avons... Et Seigneur, que... Nous avons peut-être peu de moyens de contact, mais Seigneur, que tu les bénisses aussi, Seigneur, et qu'un jour ils puissent aussi trouver cette voie de la liberté que toi tu donnes par ta présence. Alors Seigneur, qu'ils puissent aussi te rencontrer ainsi que leurs parents. Amen.
Pour les générations qui viennent, dans ce monde tellement compliqué. Merci pour le salut extraordinaire que tu proposes. Sois-nous en aide pour transmettre la foi qui nous a été transmise, que ce soit à nos enfants, petits-enfants, aux enfants que tu nous prêtes ici dans l'Église. Et nous te prions de nous aider, de nous inspirer, de ne pas nous laisser décourager. Renouvelle les forces, le courage. Donne de l'inventivité pour un message qui ne bouge pas. Nous reconnaissons que nous faillissons trop souvent et nous avons besoin de toi. Visite-nous, Seigneur, pour que ton nom soit honoré. Amen.
Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Seigneur, nous te demandons cette passion de Jésus pour que nous sachions transmettre et saisir les occasions pour dire combien marcher avec toi, c'est découvrir la vraie vie. Et pour ça, Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit que nous te demandons pour la gloire de Jésus. Amen.
Merci.
Merci pour ce message qui nous a été apporté ce matin. Ça nous touche beaucoup parce que, comme vous le savez peut-être, on est une famille. Le groupe Lucia, c'est une famille, on est toutes des cousines. Et puis on a aussi nos hommes qui nous accompagnent. Et ça nous touche beaucoup ce que tu as dit parce que nos parents nous ont toujours transmis l'amour de l'Église, l'amour du corps de Christ. Et ils nous ont transmis la foi, transmis comment aimer Dieu et comment lire la Bible. Et aujourd'hui, on est là, on peut servir l'Église par différents moyens. On est chacun investi aussi dans les Églises et on a ce groupe Lucia qu'on peut simplement juste partager. Et ouais, ça nous touche beaucoup. Donc, c'est un encouragement aussi pour les parents, les grands-parents qui sont là. Et le Seigneur fait son action. Et je pense qu'on peut dire que nos parents ont bien fait leur job.
Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul. Jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi,
les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs.
Merci. Nous n'avons qu'un seul Père, une seule foi, un seul Roi qui pour nous s'est offert. Et c'est ce que nous allons fêter maintenant. Nous avons ensemble, lors de ce culte, adressé nos louanges à Jésus-Christ et à notre Dieu. Nous avons écouté sa parole et nous allons essayer de la mettre en pratique. Ne soyons pas des écouteurs ou des chrétiens oublieux. Nous avons prié ensemble. Et maintenant, nous arrivons à ce qui est pour moi le sommet du culte, par le partage de la Sainte Cène. En effet, en prenant ce repas, le pain et le vin, nous allons entrer en communion profonde avec Dieu, par Jésus-Christ, avec les chrétiens du monde entier qui en ce dimanche se réunissent pour louer Dieu et l'écouter, et aussi en communion ici, entre nous, grâce à ce sacrifice de Jésus-Christ, car en lui nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles du Père, si nous confessons que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Si c'est le cas, participez à la Sainte Cène. Entrez en communion avec l'Église de Christ et avec Jésus-Christ lui-même. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est donné, rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, ou en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Seigneur, nous voulons prendre ce pain et ce vin avec beaucoup d'humilité. On te prie, Seigneur, de venir ôter tout ce qui nous divise, ce qui nous divise de toi, ce qui nous empêche de nous approcher de toi. Seigneur, là aussi, s'il y a encore des choses qui nous séparent de notre prochain, de vieilles histoires, nous voulons aussi te les apporter à la croix, te demander que tu en fasses quelque chose pour que nous puissions avancer. Seigneur, on te demande, alors que nous allons prendre ce pain, ce vin, de venir vivre en nous, de nous transformer. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ton œuvre et nous voulons vivre ce temps avec ta joie, la joie de la réconciliation. Amen. Amen.
Je demande aux personnes de venir donner un petit coup de main. Donc, les plateaux ronds, ils ont au milieu dans les verres roses du jus de raisin et autour du vin. Vous pouvez prendre directement la scène, la manger, la boire tout de suite sans s'attendre nécessairement. Pour l'instant, si quelques-uns désirent encore s'exprimer, dire une prière ou lire un texte, faisons-le dans la liberté que le Christ nous donne.
C'est une grâce pour chaque famille chrétienne. Mais Seigneur, il y a plein d'enfants qui ne sont pas de famille chrétienne et qui habitent en Meyrin. Alors nous prions pour ces enfants, pour qu'ils rencontrent des chrétiens et qu'ils entendent la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et pour que ces enfants te retrouvent, Seigneur, te trouvent, que nous soyons, nous, les adultes, prêts à parler à ces enfants, à les évangéliser, à les entourer, à faire des jeux peut-être avec eux, qu'ils se sentent vraiment entourés, que nous puissions aussi prier beaucoup pour ces enfants, les enfants particulièrement de Meyrin, qu'ils puissent te trouver, qu'ils puissent être avec toi pour toujours. Amen.
Amen.
Thank you.
Quel merveilleux moment nous venons de passer ensemble. Nos esprits ensemble, nos âmes, nos cœurs tournés vers notre Seigneur et Sauveur. Tous ensemble, pour lui rendre grâce, se rappeler ce qu'il a fait pour nous à la croix. Ce pourquoi nous sommes là. C'était super, non ? Merci Seigneur d'avoir permis cela. Voilà, et sans transition, je demanderai à Joanne pour les annonces.
Bonjour. Merci pour ce magnifique thème ce matin qui nous parle et qui peut vraiment nous accompagner cette semaine. Et je profite, puisqu'on parle de transmission, de vous parler de cet outil de transmission pour nos enfants. Vous le connaissez certainement, le potager. Le potager, c'est un petit journal pour les enfants. Il s'appelle le potager parce qu'on a imaginé que l'enfant, c'était comme un jardin où on plante des petites graines et puis on arrose et il y a des choses qui vont pousser. Donc dans ce petit journal, il y a des petites choses pour les enfants. Et puis, tout le monde peut y participer puisque c'est de la transmission. Et on pourrait même demander à des potes âgés de mettre un petit message pour des enfants. Donc si vous vous sentez appelé à vouloir transmettre un petit quelque chose, venez me voir, vous venez voir Eleanor, on peut mettre quelque chose là-dedans pour transmettre sa foi, peut-être transmettre une histoire que vous avez vécue quand vous étiez petit. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, ce journal, bien sûr, il est lié à ce que font les potes et tous les moniteurs. Et je te laisse la parole.
Oui, on a besoin de soutien de moniteurs. On n'a pas besoin forcément d'un moniteur qui s'engage tous les dimanches. On a besoin de personnes qui puissent venir nous apporter juste une histoire, on a besoin de théologie, on a besoin de pasteurs, on a besoin de bricoleurs, on a besoin de grands-parents, on a besoin de plein de choses. On n'a pas forcément besoin de moniteurs qui font une leçon du début jusqu'à la fin, qui savent tout faire. Donc vous pouvez venir des petits moments, on peut organiser...
Donc on a besoin de personnes qui peuvent venir donner un petit coup de main, ça fait toujours du bien. Vous savez, les moniteurs, il y a Chantal, Quentin, Denise pour les Lucioles, Laïse, Claire et Nicolas pour les Renards. Donc ils sont trois par groupe, donc grosso modo ils passent chacun une à deux fois par mois. C'est un travail conséquent, c'est un investissement conséquent et qui ne se voit pas parce qu'en fait on est en bas. Et c'est un besoin de soutien aussi qui est important. Donc de venir, si vous savez cuisiner, on peut organiser une fois de faire des petits cookies avec les enfants et puis quelqu'un d'autre amène une petite histoire, une petite expérience de foi qu'on a eue dans notre vie. Ça suffit pour les enfants. Parce qu'ils viennent à l'église, ils ont une activité entre copains, ils se sentent dans un environnement serein. Et puis ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis il y a un petit message, le message, il n'a pas besoin d'être long. Il faut retenir une chose quand on est enfant, une petite chose, et on s'en souvient. De toute façon, un enfant, après 20 minutes, c'est un peu comme les adultes aussi. Donc je vais m'arrêter là. Là, on a besoin de soutien. Donc, même si vous vous dites au fond de vous, mais moi, je ne sais rien faire. Et encore plus si on entend des fois, je ne sais pas bricoler. Ce n'est pas le bricolage. Nicolas, il s'en charge, il fait ça très bien. Donc, si vous avez envie de participer, mais vous ne savez pas comment, quoi, venez nous voir. On saura mettre en lumière vos dons. Et puis, vous aurez du plaisir et les enfants auront aussi du plaisir. Pensez à Moïse, puisqu'on l'a cité ce matin. La première remarque qu'il a dit à Dieu, « J'ai pas les compétences pour aller parler à Pharaon. » Alors Dieu lui a dit, « Tu me fatigues. Ton frère Aaron, il sait parler, alors tu le prends, c'est aussi compliqué que ça. Voilà. » Donc, n'hésitez pas à venir. Merci. Donc ça, c'est pour le potager. Alors du coup, il y a le potager numéro 11 qui sort pour la prochaine série et qui parlera notamment de Moïse. Comme quoi les choses sont liées. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est très bien. Pour le reste des annonces, alors nous avons mercredi, groupe CTT à 20h, avec à partir de 19h, un moment de convivialité, mais à 20h, la séance CTT qui commence. Nous avons dimanche prochain culte découverte. Donc il y a un culte avec quelques explications sur le culte qui permet d'inviter un peu plus large, c'est un peu plus simplifié pour qu'on puisse inviter des personnes autour de nous à leur faire découvrir notre foi et notre manière de vivre le culte. Et puis, je crois qu'il y a un petit film aussi.
Les M, c'était ça. Mais pas que. Et maintenant, c'est ça. Mais pas que. Ce n'est pas juste une histoire de bâtiment ou d'emplacement. Car ensemble, nous avons appris, nous avons prié et loué. Nous avons partagé. Nous avons été en désaccord. Et nous avons été en accord. Mais il ne s'agit pas que de nous, mais surtout de la gloire de Dieu. Pour les 60 ans de l'EM, nous organisons une fête en son nom et en son honneur. Une église en lumière, une église qui accueille, une église qui va. Pour cela, il y a deux dimensions à cette fête. Une fête pour les Mérinois et pour les membres de l'EM. Pour Mérin, un petit festival sur plusieurs jours ciblant 3 générations par jour. Une journée pour les familles, une journée pour les jeunes, une journée pour les plus âgés. Et nous ajoutons à cela un événement pour les voisins directs. Pour les membres de l'EM, une partie fête. Une journée ou une soirée où nous pourrons souffler nos bougies. Alors pour que cette fête fonctionne, nous avons besoin de vous. Par petits groupes, vous allez travailler sur une journée du festival. Une journée pour une génération. Par exemple, si vous vous inscrivez pour une journée pour les jeunes, vous serez utile à donner vos idées, à trouver comment atteindre les jeunes de Mérin, à organiser et à participer à l'événement avec les Mérinois. Voici donc les 5 petits groupes de création. Ces groupes se réuniront quelques dimanches après-midi, à partir de début mars. Les dates et les heures sont encore à définir. Vous pouvez vous inscrire sur la grande feuille dans le foyer de l'EM, par email au conseil ou en DM sur l'Instagram de l'EM. L'ensemble de ces événements se passeront entre septembre et décembre 2023. Si vous avez des questions, vous pouvez vous tourner vers Michaela qui pilote le projet, mais également vers le conseil et les pasteurs qui sont en copilotage. Réjouissons-nous et préparons-nous pour cette année spéciale, pour la gloire de Dieu. Et puis en fait, joyeux anniversaire, les M.
Alors, pour vous inscrire, c'est le panneau jaune qui est au fond de la salle. Vous savez, juste à côté de cette étagère où vous pouvez mettre vos dons, soit par Twint, soit par CCP. Donc, c'est le panneau jaune là-bas. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci.
Alors, on m'a demandé d'apporter la bénédiction pour la fin de ce culte. Je vous propose de vous lever. Que la paix de Christ vous accompagne et que son esprit nous fasse grandir à la stature d'adulte, à l'image de Christ. Amen.
Bon, je pensais faire chanter encore Lucéa, mais comme c'est l'heure... Ah, vous croyez ? Alors, Lucéa, bienvenue !
J'entends ta voix qui me dit « Je pense encore à toi. » Je vois comment mes mystères, tu les prends dans tes mains. Ma vie t'appartient, tu m'aimes, tu résous mes pourquoi. Et je sais qu'un jour viendra où tu iras, j'irai.
Accueil, c'est toujours chouette de venir vous voir. On a sorti un CD en décembre, malheureusement on a déjà tout vendu. On s'est pas rendu compte qu'on allait avoir autant de succès, mais on en a recommandé, donc ils vont bientôt arriver. Alors si vous souhaitez avoir un CD, venez nous voir et puis on vous inscrira sur la liste. Bon dimanche et merci encore.
Merci. Bravo, merci. Bon dimanche.